Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Un destin qui s'est achevé tristement dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le quartier des artistes et des intellectuels parisiens, célèbre pour ses caves de jazz, ses cafés, ses idées. C'est là-bas que se trouvait au numéro 13 de la rue des Beaux-Arts, un hôtel d'une vingtaine de chambres devenu aujourd'hui, ce qu'il n'était pas à ce moment-là, le plus petit 5 étoiles de la rive gauche. Il y a très exactement 120 ans, c'est là qu'Oscar Wilde, l'un des auteurs en anglais les plus doués du 19e siècle, a fini ses jours. Oscar Wilde, c'est le dandy par excellence, provocateur et extravagant. C'est l'esthète qui mettait la beauté au-dessus de tout, l'auteur du fantôme des Canterville et évidemment du portrait de Dorian Gray qui a fait sa notoriété, mais qui a aussi choqué le public anglais, qui lui a reproché l'immoralité de certains de ses personnages. Et pourtant, l'écrivain irlandais, couvert de gloire, a fini ses jours à 46 ans dans l'une des chambres de cet hôtel défraîchi à la fin de l'année 1900. Comment en est-il arrivé là ? Oscar Wilde a été victime de ses mœurs, ou plutôt du jugement que son époque portait sur celui qu'il était réellement. Oscar Wilde était marié, il avait 2 enfants, mais dans tout Londres, chacun savait ce qui tenait du secret de Polichinelle. Oui, Oscar Wilde était homosexuel, chacun savait, mais personne ne le disait trop fort. Question de respectabilité. Mais au milieu des années 1890, les choses changent. À cette époque, Oscar Wilde tombe amoureux d'un jeune homme anglais qui est aussi une figure de l'aristocratie anglaise. Il s'appelle Alfred Douglas, il est le fils du marquis de Queensberry, que l'on surnomme Bossy, adorable garçon en anglais. Et cette relation est d'autant plus scandaleuse pour la bonne société victorienne que Bossy a 16 ans de moins que son célèbre amant, et que le couple s'affiche sans trop se soucier de ce que les autres peuvent bien en penser. Tout ceci ne plaît guère au père du jeune homme qui décide d'agir. Un matin, le marquis de Queensberry envoie sa carte de visite à Wilde avec cette phrase « Pour Oscar Wilde qui s'affiche comme sodomite ». C'est évidemment une provocation, c'est violent, c'est humiliant. Et Wilde va tomber dans le piège.
Aïe.
Il porte plainte en diffamation, mais évidemment, il va perdre son procès. Et le marquis contre-attaque, s'ensuit alors une série de 3 procès retentissants restés célèbres pour ces joutes verbales qui opposent Oscar Wilde et l'avocat de Queensberry, Edward Carson. Une phrase tirée d'une lettre de Bossy va frapper les esprits. Dans sa lettre, l'amant de Wilde évoque cet amour qui n'ose pas dire son nom. En vertu de la loi anglaise qui pénalise l'homosexualité masculine seulement parce que féminine, la reine Victoria pensait pas que ça existait. Wilde est condamné en mai 1895 à 2 ans de travaux forcés. Ces 2 années, il les passe enfermé dans le pénitencier de Reading, à mi-chemin entre Cardiff et Londres, et en tire 2 œuvres très sombres, De Profundis, une longue lettre à son jeune amant, et la ballade de la geôle de Reading. Mais à sa sortie, Oscar Wilde est ruiné. Ses biens ont été confisqués, ses droits d'auteur ont tout juste servi à éponger les frais de justice. Mais sa femme Constance a encore de l'argent. Et en dépit de la situation, elle continue de soutenir son mari depuis la Suisse où elle s'est réfugiée pour échapper évidemment au scandale. Pendant quelques mois, Oscar Wilde renoue avec son ancien train de vie, mais il reprend aussi sa liaison avec Bossy et pour Constance. Eh bien, c'est l'acte de trop. Elle est épuisée, elle est humiliée publiquement et elle décide de lui couper les vivres. Le poète est contraint de partir. Il choisit pour exil la France, pays qu'il chérit tant. Et voilà donc comment, après un court passage en Normandie, Wilde échoue à Paris. Ville qu'il connaît pour y avoir séjourné à maintes reprises, passé sa lune de miel en 1884, rencontré Victor Hugo, Proust, Verlaine, Gide, Sarah Bernhardt et bien d'autres. Mais cette fois, Wilde est plongé dans une déchéance dont il ne va malheureusement pas se remettre. À 45 ans passés, il s'installe à l'hôtel d'Alsace. Le bâtiment a eu son heure de gloire. C'est un bel immeuble de 6 étages, construit en 1816 dans le plus pur style directoire. Mais nous sommes en 1897. Le temps a passé et le lieu est défraîchi, pour ne pas dire miteux. Et ça, le dandy le supporte mal. Dans une lettre à son éditeur, Wilde écrit Cette pauvreté vous brise réellement le cœur. C'est si sale, si totalement déprimant et sans espoir. Je vous prie de faire ce que vous pouvez. » Et pour noyer sa déprime, Wilde trouve un certain réconfort dans l'alcool, la drogue et la débauche. Le propriétaire de l'hôtel de Saint-Germain-des-Prés, un certain Jean Dupoirier, est plutôt accommodant. Il aime bien son locataire, même si ses dettes s'accumulent. Il faut dire qu'il ne sait pas forcément qui loge chez lui. Le nom qu'a donné Wilde n'est pas le vrai. Il s'appelle désormais Sebastian Melmoth. Il change de nom pour fuir une notoriété si compromise et choisit celui-ci en référence à Saint-Sébastien, le martyr tué à coups de flèche, dont les artistes du 19e siècle ont petit à petit fait l'un des symboles de la persécution qui frappe les homosexuels. Melmoth erre, Wilde survit. Au-delà de ses soucis financiers et de ses excès, le romancier a un autre problème bien plus grave. Il est sérieusement malade au point qu'il ne quitte plus guère son lit. On a longtemps parlé de la syphilis, mais c'était probablement pas cette maladie qui a tué Wilde, qui n'avait pas de symptômes. L'opération de l'oreille qu'il subit le 10 octobre 1900 dans sa chambre d'hôtel évoque plutôt les conséquences d'une méningite. Quoi qu'il en soit, les derniers jours de Wilde sont une longue agonie, une suite de souffrances atroces avec quelques très rares moments de rémission. C'est peut-être dans ces instants-là qu'il a prononcé ses derniers traits d'esprit sans qu'on en ait réellement la certitude. Oscar Wilde détestait le papier peint de sa chambre, horrible et à moitié détaché du mur. Dans ses derniers jours, il aurait soupiré « Mon papier peint et moi, nous livrons un duel à mort. L'un ou l'autre de nous va devoir s'en aller. » On prête à Wilde un dernier autre mot resté célèbre. Après s'être converti dans ses derniers jours au catholicisme, Wilde aurait bu une coupe de champagne pour l'occasion, ce qui lui aurait inspiré cette réflexion « Je meurs au-dessus de mes moyens. » L'a-t-il dit ou pas ? Les biographes sont partagés, mais c'est peu probable. À ce moment-là, Wilde peut à peine parler tant son visage et sa mâchoire sont enflammés. Mais finalement, légende ou réalité, la phrase reflète l'esprit de l'auteur, léger et grave à la fois. Oscar Wilde meurt le 30 novembre 1900 à 2h10 de l'après-midi, il y a exactement 120 ans donc. Le 3 décembre, un corbillard l'emporte vers sa dernière demeure, au cimetière de Bagneux. Enfin, pas tout à fait sa dernière. En 1909, son dernier amant, Robert Ross, a pu réunir assez d'argent pour lui payer une concession au Père Lachaise. Et mieux, il a offert une énorme pierre tombale en forme de sphinx ailé pour que Oscar Wilde repose en paix. Une tombe de 20 tonnes sculptée par l'Américain John Epstein qui a la petite particularité de montrer les attributs imposants du fameux sphinx, ce que la société de 1914 conteste. Et ce qui prouve que le dandy continue à faire scandale, même après sa mort.
Europe 1, historiquement vôtre.